Lisez, si vous voulez, on va aller dans Apocalypse 18, les versets 1 à 8. Apocalypse 18, versets 1 à 8. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée, et plongé dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Nous asseoir. Alors, comme vous le savez, on est dans notre deuxième partie. Alors, aujourd'hui, on va reviser un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière et on va terminer la leçon pour qu'on, la semaine prochaine, l'autre, ben, pas la semaine prochaine, l'autre semaine après, on va tomber dans la partie du verset 9 du chapitre 18. Alors, on avait dit que une des difficultés, d'après les commentateurs, c'était vraiment celle de savoir, quand on parle de Babylone la Grande, à ce moment-là, est-ce qu'on parlait de la partie religieuse, la Grande qui est assise sur la bête, ou est-ce qu'on parlait de l'aspect plutôt politique? On avait regardé, moi j'ai examiné les deux, et je crois qu'on parle vraiment de la première. On parle de Babylone la Grande, la religieuse. Alors, on se souvient, quand on regarde Apocalypse 17, une des raisons pour laquelle on croit que c'est la religieuse, c'est dans l'Apocalypse 17, versets 4 à 6. La femme, alors on parle de la femme qui est assise sur la bête, la prostituée. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la Grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur. Alors, c'est la raison qui nous fait croire, parce qu'il dit mystère, puis là, il dit Babylone la Grande, la mère des fornicateurs. Alors, on pense qu'on parle de la... Alors, la Rome papale et les églises dites chrétiennes qu'elle a ramenées depuis quelques années, je dirais que ça a commencé peut-être une centaine d'années, puis ça s'est fait graduellement, de ramener toutes les églises, les dénominations chrétiennes sous son influence et sous son contrôle. Ça, c'est pas mal réalisé actuellement. Si quelqu'un a suivi l'actualité religieuse depuis quelques années, est très conscient de cela avec tout ce qui s'est passé, avec le développement, le pape. Et après ça, quand cet aspect-là a été terminé, de ramener les dénominations, ils appelaient les frères éloignés, donc les protestants, de les ramener sous leur contrôle, ils ont passé à une autre étape. Je me souviens très bien, en 1983, le pape Jean-Paul II, à Assise, avait réuni toutes les grandes religions de la terre. Et je me souviens très bien de la photo, je l'ai encore à l'esprit. On voyait le pape au milieu, habillé en blanc, chaque côté de lui, il y avait toutes les religions de la terre, et ça a commencé vraiment là à élargir, à vouloir élargir la religion mondiale, à pas seulement juste les chrétiens, peu importe la dénomination. Ça a voulu s'élargir à toutes les religions de la terre. Et là-dedans, il y avait toutes. Alors c'est, et depuis 83, il y a eu énormément de développement dans cet aspect-là. Donc la religion catholique était le leader là-dedans, a ramené tous ces gens-là. Et aujourd'hui, les développements récents, là, les deux dernières années, on peut sortir une masse de documents où il fait des appels aux dirigeants politiques de la Terre à s'unir et à imposer la paix et à vouloir paix et sécurité, comme on lit dans les Écritures. Lorsqu'ils diront paix et sécurité, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Alors, vraiment, on est rendu là, au point de vue. Alors, la Rome papale et les églises dites chrétiennes qu'elle a ramenées sous son influence et autorité correspondent à cette description par l'abandon des doctrines fondamentales du christianisme authentique. Si on prenait le temps, ça serait peut-être nécessaire qu'on le fasse éventuellement, de regarder ce qui s'est passé au cours des dernières années et de regarder de quelle façon ils ont abandonné délibérément des doctrines fondamentales. Comme par exemple la virginité de Marie. Ils ont tellement abandonné de choses. Il faudrait rentrer dans les détails de ça pour qu'on comprenne vraiment. Là. Alors depuis quelques années, ils ont presque sorti Christ du portrait et ils ont dit on va faire une grande religion qui va contenir toutes les religions de la terre et on va s'unir sur cette base-là. Mais Christ n'est plus notre portrait, ou du moins très peu. Ou du moins dans des doctrines diluées, dans des doctrines affaiblies, dans des doctrines même, je dirais, fausses. Alors, ce qu'on appelle l'écuménisme très large, l'écuménisme, comme je vous ai dit, ça s'est fait en deux étapes. D'abord, ramener les églises protestantes sous leur contrôle et leur autorité. Ensuite, de... Bon, ça y est. Ensuite, d'étendre toutes ces choses-là à toutes les religions du monde. Si quelqu'un a suivi l'actualité religieuse, on peut pas faire autrement que de le voir. C'est tellement évident. En tout cas, pour moi, c'est très évident que c'est ça qui se passe depuis quelques années. Alors, ce qui est important, c'est qu'on parle d'apostasie. L'apostasie, c'est simplement quelqu'un qui a déjà professé croire en quelqu'un, en Jésus-Christ, mais qui, avec le temps, a abandonné. C'est un abandon. C'est quelqu'un qui dit... qui n'a pas déjà vu ça? Tous ceux qui ont quelques années de vie chrétienne n'ont vu de ça autour de nous autres, des gens qui ont professé croire en Jésus, mais qui, avec le temps, ont complètement abandonné. Ils sont retournés dans le monde, ils sont retournés dans leur vie de péché d'antan. C'est ça l'apostasie. Tu dis que tu as cru, mais dans le fond, toute ta vie démontre que tu n'as pas vraiment cru. Parce que ça dit, je pense, dans 1 Jean, s'ils étaient des nôtres, ils ont quitté, puis il dit, s'ils avaient des nôtres, s'ils avaient été vraiment des nôtres, ils auraient resté. Alors, on regarde un peu le mot apostasie. Dans le dictionnaire biblique de Westphal qu'on a sur Internet. C'est abandon public d'une foi pour une autre. T'abandonnes Jésus pour d'autres choses. Avec signification péjorative. Péjoratif, ça veut dire quelque chose qui n'est pas ton avantage. Quand tu dis, il utilise des mots péjoratifs, les mots péjoratifs, c'est que tu utilises des mots qui ne sont pas à ton avantage. Alors, quand il dit ici « abandon public d'une fois pour une autre » avec signification péjorative, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui t'avantage. Antiochus Épiphane veut l'obtenir des Juifs en leur faisant offrir des sacrifices aux idoles. L'apôtre Paul en est accusé par les Juifs dans Actes 21:21, où le terme « apostasia » est rendu par « renoncer à Moïse ». Les Juifs accusaient Paul de renoncer à Moïse, Donc, le mot, c'est l'apostasie. Il disait que Paul était apostat. Loin de là, il n'abandonna pas Jésus. Il abandonna les faussetés de la religion juive. Alors, l'apostasie des faux chrétiens ou des juifs précédera le triomphe de l'Antichrist. Très important de saisir que ce que la Bible dit par rapport à ça. La Bible dit que lorsque les gens vont abandonner la foi chrétienne, ça va être peu avant le retour du Seigneur. Ça, c'est, si on ne voit pas le lien, on manque quelque chose d'important. Donc, l'idée d'apostasie est encore exprimée par le verbe correspondant. Quelques-uns se détourneront de la foi. Alors, très important, on va relire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3, parce que c'est le passage qui nous parle de dans quel état va être l'Église au moment qui va précéder le retour du Seigneur. Il dit, pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur, l'avènement, c'est son retour. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant. Dans certaines versions, c'est l'apostasie. Car il faut que la révolte soit arrivée. Autrement dit, il est en train de nous dire que le retour du Seigneur ne se fera pas avant que les chrétiens aient collectivement, beaucoup de chrétiens, se disant chrétiens. Là, il faut faire attention à nos mots. Les vrais chrétiens n'apostasieront jamais. C'est les faux chrétiens qui vont abandonner. Ils vont quitter, ils vont être séduits pour toutes sortes de raisons. Mais la première raison, c'est parce qu'ils n'auront pas été régénérés par le Saint-Esprit. Il dit que personne ne vous séduit en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même. Dieu, on ne rentrera pas dans les détails d'explication de ce passage-là parce que c'est... Il y a plusieurs interprétations, en tout cas. Alors, dans la version Darby, dans la version seconde 1910 et la seconde 21, traduisent le mot « révolte » du verset 3 par le mot « apostasie ». Et si on comprend ce que ça veut dire, l'apostasie, ça veut dire lorsque, dans le milieu, dans le grand milieu chrétien, il y en a qui vont abandonner, ils vont abandonner des doctrines fondamentales pour se joindre à la grande religion mondiale, parce qu'ils vont être séduits, on est direct dans les périodes du temps de la fin. C'est ça que le passage nous dit. Alors, la chute de Babylone la Grande, qui est la grande prostituée qui est assise sur la baie, elle est déclarée par les Saintes Écritures par un décret divin, souverain. On relit le passage. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, « elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. » On avait vu qu'une des difficultés du passage, c'était dans le verset 1, c'était de déterminer si l'ange, c'était Jésus-Christ, ou si c'était tout simplement un ange que Dieu avait revêtu d'une grande puissance. Beaucoup d'auteurs disent que c'est plutôt un ange revêtu d'une grande puissance, parce que la question, c'était toujours qu'il disait que la terre fut éclairée de sa gloire. Alors, il fallait que, On parle de la terre, là, c'est gros, là. Pour que la terre soit éclairée de la gloire d'un ange, il ne fallait pas que ça soit une gloire ordinaire. Alors, la plupart des auteurs disent qu'ils pensent que c'était un ange, que Dieu avait donné beaucoup de pouvoir et qui avait probablement été dans la présence de Dieu et qui rayonnait tellement que c'était assez pour éclairer la terre. Ah, les gars, moi, on est obligé de se fier un petit peu à ce que nos prédécesseurs ont dit. Moi, je pense pas que c'était Jésus-Christ, je pense que c'était vraiment un ange. OK, après ça, on avait vu que c'était la raison pour laquelle Dieu dit qu'il est tombé, c'est parce que une religion qui se dit Jésus-Christ, qui est rendue un repère de démons, quand on parle du repère des Hells, on parle de l'endroit où on se rassemble. Alors, ça dit, verset 2, « cria avec force et grande voix, elle est tombée, elle est devenue la demeure des démons. » Une église qui est rendue la demeure des démons, à quelque part, je pense qu'il y a un problème sérieux là. Et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Souvent dans l'Écriture, l'image des oiseaux, le Seigneur l'a utilisé dans les évangiles, des oiseaux pour parler des démons aussi. Alors, la chute de cette église-là est certaine parce qu'elle est criée à double reprise, à deux fois. Elle est tombée. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'idée que c'est une prophétie, puis elle parle au passé. C'est une idée très intéressante dans le texte, quand on s'arrête là. Alors, la nature diabolique de Babylone la Grande est triplement révélée. Une demeure de démons, un repère de tout esprit immonde et un repère de tout oiseau immonde et horrible. Une institution mondiale et d'une influence extraordinaire par son prestige et par sa richesse, qui est censée promouvoir la cause et la vérité du Seigneur Jésus-Christ, est dégénérée et corrompue à ce point qu'elle ne peut qu'inspirer le dégoût et l'horreur. Pas pour rien que Jean t'a troublé à un moment donné quand il a vu. Imagine, il voit comme ce qui est supposé de représenter la défense de Christ et la promotion de Christ, il est rendu un repère de démons. Il devait avoir de quoi troubler l'esprit d'un gars comme Jean, là, l'apôtre Jean. Rappelons aussi le sens du mot immonde, parce qu'on parle du mot immonde dans le texte. Le mot immonde, ça veut dire d'une saleté ou d'une laideur qui provoque le dégoût. D'une immoralité et d'une débauche extrême. D'une bassesse ignoble, infâme et révoltante. Quand on pense à ça, là, t'es en train de dire que c'est tellement salaud, ça te donne du dégoût. Alors, il dit que l'Église des temps de la fin va commencer à ressembler à ça, dans son ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la vraie Église ici et là qui n'aura pas conservé la bonne doctrine et qui n'aura pas conservé le bon comportement aussi. Mais il va y avoir un glissement important. Alors, l'ange ici nous parle du diable qui anime le système. Autrement dit, ce grand système-là, ça va avoir été construit sous l'impulsion et sous l'influence du malin lui-même. Ça va s'être fait très graduellement, très hypocritement. Alors, ce que le verset nous décrit, c'est un monde qui est littéralement abandonné et livré au diable. Après ça, il nous parle de sa prostitution et de sa convoitise dans le verset 3. La prostitution, c'est quoi? C'est comme là, ce serait une femme qui serait supposée être mariée avec Jésus. Puis la prostitution, ça veut dire que tu t'en vas dans toutes sortes de directions au point de vue doctrinal qui n'a plus rien à voir avec les vérités de la Bible. C'est ça, la prostitution. Et en plus, non seulement elle avait ça, mais elle avait l'amour de l'argent, elle avait la convoitise. Elle cherchait par tous les moyens à s'enrichir elle-même et à corrompre les dirigeants de la terre par son luxe et par toutes ses doctrines. Alors, on voit dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 et 10, la Bible nous dit que la racine de tous les maux, si on faudrait analyser tous les mots qu'il y a sur la terre, la racine de tous les mots, c'est l'amour de l'argent. C'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 et 10. « Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. » Je vous avais donné la semaine dernière un petit peu la traduction. Je sais pas que c'est une traduction que j'apprécie beaucoup, mais c'est quand même... Des fois, ça dit, ça traduit les choses. C'est pas une traduction littérale qu'on dit. C'est plus une paraphrase qu'on pourrait dire. Donc, comment ils traduisaient ça, eux autres? « Car toutes les nations ont bu du vin de son dévergondage effréné. Tous les hommes se sont grisés de sa sensualité passionnée. Les souverains du monde se sont livrés à la débauche avec elle, et les marchands de la terre ont fait fortune en satisfaisant son amour excessif du luxe. » C'est une façon de traduire qui donne quand même l'idée générale quand même. Donc, on était rendu à la chute, versets 4 à 7. Alors, quand le Seigneur, il dit, ici, il veut nous montrer que dans le fond, Babylone la Grande, celle qui va être condamnée, celle qui va être jugée très sévèrement, il vient nous délimiter c'est qui. Parce qu'il nous dit qu'à l'intérieur de ce grand peuple-là, de ce grand ensemble de personnes humaines-là, il y a des véritables croyants. Et le Seigneur leur donne un avertissement d'une très grande sévérité. Quand ça dit dans le verset 4, « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Donc, si à l'intérieur de tout cela, il y a des véritables enfants de Dieu, et le Seigneur est en train de leur dire, « Si vous vous rendez compte de quelque chose qu'on vient de parler, là, ben sortez, parce que quand son jugement va arriver, si vous êtes encore là, vous allez subir, vous allez passer à travers, vous allez subir le même châtiment. » Alors, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Alors, il faut se rappeler que c'est un ordre. Séparez-vous d'eux. Et ça nous ramène au verset 2 Corinthiens 6, versets 14 et 17. C'est important parce que la fameuse séparation du mal aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui commence à l'oublier. Aller en affaire avec un inconverti. Je n'ai vu des chrétiens faire ça. J'ai vu des chrétiens ou des chrétiennes se marier avec des inconvertis, malgré les avertissements. Ils font pareil. Mais le Seigneur nous donne des avertissements, et quand on n'en tient pas compte, on paye pour. Tôt ou tard. Voyez-vous, 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 17, « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai votre père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc la mesure du péché est vraiment rendue à son comble, et c'est là que le Seigneur décide que elle est tombée. Très intéressant de se souvenir que nous, le Seigneur nous dit que nos péchés sont oubliés. Tous. Non, tu sais, le jour de ton salut, là, tu reçois une grâce extraordinaire. Tous les péchés que tu as faits avant que tu aies salué, dans mon cas, j'avais 33 ans. J'en avais commis une méchante gang. Tous ceux-là sont pardonnés. Ceux-là que tu vas commettre dans la journée même sont pardonnés. Et tous ceux-là que tu vas commettre jusqu'à ce que tu crèves sont tous pardonnés au moment que tu reçois ton salut. C'est un cadeau, c'est pas un cadeau, ça. Et ça dit dans Hébreux, chapitre 10, versets 15 à 17, « Et le Saint-Esprit nous le témoigne aussi, car après avoir dit d'abord, « Voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leurs entendements. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Si on réalisait vraiment pleinement qu'est-ce que ça veut dire que le Seigneur ne se souvienne plus de nos péchés, parce qu'oubliez pas une chose, hein, si vous en avez commis des millions, puis vous allez en enfer, plus vous en avez commis, plus votre punition va être sévère. Il dit qu'il ne se souviendra plus, c'est comme si on n'avait pas fait. Pourquoi? C'est-tu parce qu'il n'y a personne qui a payé pour? Non, c'est Jésus qui a accepté de subir le châtiment que moi j'aurais dû avoir et que vous, vous auriez dû avoir. Il a accepté de le subir de la part du Père à notre place. C'est tellement extraordinaire, là. Savez-vous ce qui arrive avec le temps? Quand on est dans la vie chrétienne depuis bien longtemps, là, 25, 30 ans, on vient que le vocabulaire qui parle du salut dans les Écritures, on vient habituer avec grâce. On parle de tout ça avec une légèreté. Je suis pas convaincu qu'on fait bien. Parce que il faut comprendre ce que le Seigneur a fait et se le ramener à la mémoire de façon constante. Moi, je suis convaincu que si le Seigneur nous montrait où qu'on s'en allait, s'il ne nous sauvait pas, on aurait tellement peur, tous les cheveux nous blanchiraient, on tomberait la face pleine terre, on serait terrorisés. Je suis convaincu que si le Seigneur nous montrait l'endroit où on s'en allait, s'il ne nous aurait pas fait grâce, on serait terrorisés, on hurlerait. Dans les grands réveils, là, dans le passé, quand vous étudiez l'histoire des réveils, quand il y a eu des grands réveils dans le passé, le Seigneur a envoyé des réveils dans son... Et le Saint-Esprit permettait que des fois, des prédicateurs parlaient du salut. Et là, ça produisait un effet très puissant sur les personnes. On voit plus beaucoup de ça, mais ça s'est fait dans le passé. Il y a eu des grands réveils. Il y a eu au moins 6 grands réveils historiques où que ces choses-là arrivaient, là, que les gens, quand ils entendaient parler de leur perdition, de l'endroit où ils s'en allaient. Dans le temps de Jonathan Edwards, ça arrivait continuellement. Et pas que Jonathan Edwards, d'autres, là. Ça arrivait continuellement. Les gens entendaient l'Évangile, ils étaient dans un état de terreur. Ça durait des semaines, et ils disent dans les livres de théologie que certaines fois, ça durait des mois. La personne est dans un état là, de perdition, elle se sent sur le bord de l'enfer, sur le bord de tomber, les gens paniquait. Pourquoi? Parce que c'était une œuvre du Saint-Esprit. Dieu permettait ça, et il a permis ça à des périodes régulières de l'histoire. Quand son Église s'endort, pas pour rien qu'on appelle ça un réveil. Parce que le Seigneur envoyait son Esprit, par grâce souveraine, dans différents endroits de la terre, et il permettait que ces choses-là arrivent. C'était extraordinaire. C'était des miséricordes de Dieu extrêmement grandes. Maintenant, on voit qu'il veut exclure certaines personnes du jugement qu'il veut envoyer sur Babylone la Grande. Mais en même temps, il y a quelque chose dans le verset 6 et 7 qui sont la rigueur de la rétribution. Dieu veut qu'on comprenne qu'est-ce qui va arriver à cette fausse église-là, à cette église-là infidèle. Très important, verset 6 et 7. « Traitez-les comme il vous a traités. » Rendez-lui au double de ce qu'elle vous a fait. Dans la même coupe où elle vous a versé, versez-lui au double. Et autant elle s'est enorgueillie et elle s'est plongée dans les délices, autant faites-lui souffrir de tourments et d'afflictions, parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai pas le deuil. » Très intéressant. Parce que les commentateurs, quand ils arrivent sur ce verset-là, ils disent qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Parce que, pourquoi double? Pourquoi le Seigneur voudrait Est-ce que ça veut dire, le verset, ce qui veut dire que ce qu'elle a fait subir de péché aux autres et de souffrance aux autres, donnez-lui-en deux fois plus? Ou si ça veut dire, plutôt, donnez-lui l'équivalent? Et là, vraiment, tu es obligé d'aller fouiller pour comprendre que... Et la plupart des auteurs résolvent le problème en disant, le Seigneur ne demanderait pas le double. Dans le sens, il ne demanderait pas que l'Église, dans son ensemble, même dans son infidélité, qu'on lui fasse payer le double. L'idée, c'est que la plupart disent que ça voudrait dire l'équivalent. L'équivalent exact. Un peu comme dans la loi du talion, dans l'Ancien Testament, où on disait œil pour œil, dent pour dent. Ça voulait dire que Dieu demandait que celui qui avait fait du tort à quelqu'un d'autre, qu'on lui fasse le même tort qu'il a fait à la personne. Exact! Et la plupart des auteurs disent le double ici, c'est faites-lui comme une copie duplicata. Faites-lui subir ce qu'elle a fait subir aux autres. Moi, je pense que je penche plus de ce côté-là que de dire que le Seigneur demande le double. Je pense que ça veut dire le double. Et la plupart des auteurs disent que ça voudrait dire plutôt au duplicata. Alors, l'idée de rendre au double, ça doit être bien comprise. Il s'agit de lui faire subir l'équivalent de ce qu'elle a fait subir aux autres. C'est en quelque sorte un de duplicata, le double. C'est un peu comme quand on parle d'un diplôme. Hein? Oh, Dieu, oh, je dois avoir un duplicata de mon certificat de naissance. Donne-lui une copie conforme, un double. C'est l'idée de lui donner l'équivalent exact de ses œuvres. Psaume 137, verset 8. « Fille de Babel, la dévastée, heureux qui te rendra ce que tu nous as fait. » Galates, chapitre 6, verset 7. « Ne vous abusez point, on ne se joue point de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. L'idée de la rétribution, c'est d'utiliser des moyens de correction et de punition qui correspondent aux fautes commises. Le péché de Babylone, on peut les identifier, il est triple. L'auto-indulgence, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est la facilité à s'excuser. Si on regarderait toute l'histoire, là, on verrait que chaque fois qu'ils sont accusés de quelque chose qui est facilement démontrable par les Écritures, l'auto-indulgence, ça veut dire, ben non, pas nous autres. S'excuse tout le temps de leur péché. Elle sera donc jugée sévèrement et très rigoureusement. Alors, plus quelqu'un est auto-indulgent, qui cherche à s'excuser, plus le Seigneur va être rigoureux pour démontrer que ce qu'on lui reprochait, c'était vrai. Après ça, le deuxième péché de Babylone la Grande, c'est celui de l'orgueil. Alors, quand quelqu'un est orgueilleux, si le Seigneur veut le corriger, qu'est-ce qu'il fait? Il l'humilie! Il prend exactement l'inverse et il s'organise avec l'inverse pour arriver à l'endroit où il veut aller. Donc, tu avais l'auto-indulgence, tu avais l'orgueil et tu avais la fausse immunité. Qu'est-ce que ça dit dans le verset? « Je suis reine, je ne verrai pas le deuil. » Qu'est-ce que c'est pas de l'immunité, ça veut dire que tu te penses à l'abri de tout. Tu penses qu'il n'y a jamais personne qui va pouvoir te condamner, qu'il n'y a jamais personne qui va pouvoir te juger. Alors ici, le fait de la fausse humilité va être jugé par le Seigneur. Elle va devenir pauvre, même si elle est extrêmement riche, et elle va devenir veuve, jeune, et elle sera abandonnée et perdra tous ses privilèges, elle souffrira et connaîtra le malheur. Ça veut dire que le Seigneur est capable de faire toutes ces choses-là, il va la corriger d'une façon extrêmement rigoureuse, de sa facilité à s'excuser, de son orgueil en l'humiliant, et aussi... il va le permettre qu'elle devienne pauvre et veuve. À ce moment-là, tous ses péchés vont être corrigés en même temps. Dans le verset 8, ça dit, la chute est déterminée, verset 8, c'est pourquoi ses plaies, la mort, le deuil et la famine viendront en un même jour et elle sera consumée par le feu, car le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. Donc, la justification de la chute, ici, ça dit c'est pourquoi. Le Seigneur vient nous dire pourquoi il va la juger. Alors, sa puissance, sa gloire et son orgueil n'empêcheront pas le jugement du Seigneur. Sa destruction sera rapide et sûre. En un jour, tout ce que l'homme a construit pendant des milliers d'années sera réduit à néant. Le jugement viendra et il n'y aura pas d'échappatoire. C'est réglé. Babylone la Grande a fait preuve de dureté, de violence, de séduction et de tromperie. Elle s'est laissée guider par la convoitise et l'amour de l'argent et du pouvoir, et elle a versé le sang des croyants. Si on prend l'histoire de l'Église catholique, durant l'Inquisition et pendant bien d'autres périodes, durant la... C'est le sang, là, quand on parle des sangs des croyants en Jésus, le sang des... Ils ont fait couler beaucoup de sang. Elle a entraîné les hommes à ses doctrines et à ses pratiques infernales. Apocalypse 18, versets 23 et 24. C'est pour ça que je vous ai mis à la fin la dernière feuille, là, j'ai mis une feuille très importante pour comprendre, parce que le verset 23-24 se rattache à la partie qu'on est en train d'étudier. Apocalypse 18, verset 23-24. « La lumière de la lampe n'y luira plus, et l'on n'entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. » Qu'est-ce que ça veut dire, enchantement? C'est pour ça que j'ai pris la peine d'aller chercher. Ça veut dire sorcellerie. Quand on parle de démons, une institution qui est censée promouvoir et faire avancer la cause de Christ, qui est rendue un repère de démons et qui pratique la sorcellerie, à quelque part, je pense qu'elle était due pour être jugée. Alors, le verset 23. Ah oui, verset 24, ça dit « Et c'est en elle qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. » Combien de personnes ont été mises à mort sur la terre à cause de la foi réelle en Jésus-Christ? Si on prenait les livres d'histoire, ça varie, mais plusieurs millions. Plusieurs millions. Alors, le verset 23 et son expression qui dit « Par tes enchantements » est hautement significatif. Les différentes versions l'ont exprimé ainsi. La King James dit « Your sorceries ». Darby dit « Par ta magie ». David Martin dit « Par tes empoisonnements ». C'est toutes des variantes. Hein? L'empoisonnement, c'est plus tes drogues. La magie, c'est plus les affaires de sorcellerie. Et par ta sorcellerie dans le second 21. Babylone la Grande est fortement impliquée dans la pratique de l'occultisme, des arts magiques et de la sorcellerie. Elle est de plus ivre du sang des saints et des prophètes. Elle a utilisé la violence, l'oppression et la mort pour maintenir son influence et son pouvoir. Ça, c'est une chose dans le port des églises modernes. On a très peu de connaissances sur l'histoire de l'Église à partir du début, amenée jusqu'à aujourd'hui. C'est un grave manquement. On se devrait... Parce que plus on connaît ça, plus on comprend ce qui est en train de nous dire. Alors, le Seigneur, il dit que c'est sûr que ces choses-là vont arriver. Et il nous dit la raison pour laquelle toutes ces choses-là vont arriver. Car le Seigneur Dieu, qui la juge, c'est Dieu qui la juge, est puissant. C'est plus que puissant, il est tout puissant, omnipotent. Alors, quelque part, ça ne sera pas un problème pour lui de provoquer toutes ces affaires-là en même temps. Alors, le jugement du grand juge de la terre est irrésistible, irréversible et terrifiant. Sa puissance est sans limite. Il peut détruire cette immense et très riche organisation en un très court laps de temps, sans utiliser même toute sa puissance, et le faire avec une efficacité et une justice sans faille. C'est spécial quand on pense à la grosseur de ces institutions-là, qu'en peu de temps, enlever la fortune, enlever le prestige, dénoncer tous les péchés, que ça soit rendu public, que tout le monde les voit, ça prend de la puissance pour être capable de faire ça. Alors, trois applications. Ceux qui ont eu le temps, je vous invite à lire l'article. J'ai eu trois pages, pas long. Mais c'est parce qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire quand il parle d'enchantement, de sorcellerie. Les différentes versions utilisent des mots différents, mais dans le fond, c'est vraiment l'idée de sorcellerie. Là. Trois applications. Première, méditons sur le fait qu'une organisation se disant de Christ puisse devenir le véhicule et le moteur de valeurs, de doctrine et de pratique de démons. À quelque part, là, réfléchissons un peu. Prions le Seigneur de nous donner un discernement d'une grande lucidité et de nous donner la force de demeurer dans le sentier étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Rapprochons-nous du Seigneur et utilisons abondamment les moyens de grâce que le Seigneur nous a donnés. La prière, la parole, la communion fraternelle et l'évangélisation. Que le Seigneur demeure au centre de nos pensées, au centre de nos projets et au centre de nos activités. Deuxième application, implorons le Seigneur de nous indiquer si nous pouvons avoir des liens avec Babylone la Grande et de pourvoir à la détermination et la force nécessaire pour s'en séparer courageusement. Ça dépend de... Si tu es impliqué dans cette église-là, puis que tu es vraiment impliqué, puis qu'avant eux, tu t'en rends compte, c'est sûr qu'il y en a, ça va leur prendre une grande détermination puis beaucoup de courage pour sortir, pour abandonner. Tu sais, des fois, il y a des gens qui peuvent avoir été dans des communautés là-dedans, puis que là, ils se rendent compte qu'ils décident de sortir. C'est pas évident quand tu es rendu assez âgé. Tu sais, à quelque part, ça va te prendre de la force, du courage, et c'est le Seigneur qui va te la donner. Quand les gens vont se rendre compte là, dans quoi ils sont, puis qu'ils vont se rendre compte que le Seigneur leur commande de sortir de là, ils vont pouvoir aller chercher la force nécessaire auprès de celui qui peut leur donner la force. Le Seigneur lui-même. Troisième application, consolons-nous en sachant que le Seigneur est omnipotent, saint et juste. Il ne laissera pas le péché impuni, et particulièrement celui fait contre son peuple. C'est ça que ça parle. Le ivre du sang des saints, qu'est-ce qu'elle a fait à son peuple? Dieu ne l'a pas oublié à aucun des individus à qui ces choses-là ont été faites. Rendons-lui grâce et exprimons-lui notre reconnaissance. Gardons les yeux fixés sur lui de façon constante et prions pour des grâces prévenantes et de la persévérance malgré les difficultés. Que Jésus-Christ soit adoré, loué et béni éternellement. Amen.